Mode colorimétrique, format, résolution, profil, ça te dit quelque chose? Si la réponse est non, pas de panique, j'ai la ressource gratuite qu'il te faut pour préparer n'importe quel fichier d'illustration en fonction de son support. Quand on est illustrateur ou illustratrice, on vend les droits de nos dessins, ou plutôt on loue les fichiers de nos illustrations pour un temps, un support et un territoire donné. Mais ces fichiers, pour être utilisés correctement par tes clients et reproduire fidèlement tes créations, se doivent d'être bien préparés. Mode colorimétrique et profil adapté au support, résolution suffisamment grande pour une illustration bien nette, etc. Je te parle chinois? Ok, pas de souci. Pour éviter les maux de crâne et arrêter de chercher les infos sur le net, je te propose de télécharger gratuitement une anti-sèche pour préparer tes fichiers d'illustration à la perfection. Dans cette anti-sèche, tu retrouveras toutes les informations dont tu as besoin pour savoir quoi faire et comment pour obtenir des fichiers de haute qualité que tu pourras partager avec tes clients sans rougir. Pour télécharger ton anti-sèche, rends-toi sur elodie-illustration-avec-un-s.net/fichier. elodie-illustration-avec-un-s.net/fichier. Ok, retour à l'épisode du jour. Bonne écoute. Hey, avant que l'épisode commence, je voudrais juste te parler d'un petit truc. Je viens de passer quelques jours à créer un guide PDF pour t'aider à bien démarrer dans l'illustration. Que tu sois autodidacte, salarié, en train de réfléchir à te lancer dans l'illustration ou à peine lancé, tu vas découvrir les 4 étapes à suivre pour littéralement démarrer ta carrière dans l'illustration. Pour le trouver, rends-toi simplement sur elodie-illustration-avec-un-s.net/start-illustration. Mets ce podcast en pause. elodie-illustration-avec-un-s.net/start-illustration. Dans ce guide, tu vas découvrir mes conseils qui vont te permettre de te lancer et peut-être même de surmonter le syndrome de l'imposteur. Sincèrement, ce guide s'adresse à tous les créatifs passionnés qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour franchir le cap. Ta future vie dans l'illustration t'attend, alors rends-toi vite sur elodie-illustration-avec-un-s.net/start-illustration. Bonjour et bienvenue pour ce 3e épisode de Illustration, le podcast. Alors moi c'est Elodie, je suis illustratrice depuis 2010 et aujourd'hui on va parler des personnes qui sont autodidactes et qui souhaitent se lancer dans l'illustration. Alors c'est une question qui revient souvent, on m'envoie souvent ce genre de messages par mail ou autre. Est-ce qu'on est vraiment légitime pour se lancer dans l'illustration quand on n'a pas fait d'école, quand on n'a pas de diplôme? Mais avant ça, je voulais vous parler d'un petit concours que je viens d'organiser pour vous tenter de vous faire gagner mon e-book Illustration Mode d'Emploi. Alors pour ça, ce que je vous invite à faire, si vous aimez ce podcast et que vous avez apprécié les épisodes jusqu'ici, c'est de vous rendre sur Apple Podcast et de prendre le temps de commenter et de me laisser une note, puis de faire une capture écran de votre commentaire et de le poster dans mon groupe privé sur Facebook, la communauté d'Elodie avec des trémas sur le E. À la fin du mois d'août, je tirerai au sort une des personnes qui aura la chance de gagner mon e-book Illustration Mode d'Emploi. Bonne chance à vous. Alors comme je vous disais en introduction, le problème de légitimité quand on souhaite se lancer dans l'illustration et qu'on n'a pas fait d'école, qu'on a peut-être eu un parcours assez complexe, qu'on a peut-être eu plusieurs carrières dans sa vie et qu'on est actuellement dans un boulot qui n'a absolument rien à voir avec l'illustration ni la créativité en général. En général, quand on est dans cette situation, les personnes se sentent pas légitimes, elles ont un peu l'impression d'arriver mettre les pieds dans le plat et se dire mais pourquoi moi je serais légitime, pourquoi moi je pourrais me lancer dans l'illustration alors qu'il y a des personnes qui sortent tous les jours de grandes écoles réputées et avec un diplôme, avec un cursus spécialisé. Comment moi je pourrais prétendre avoir ma place dans l'illustration et pouvoir percer et en vivre? Alors déjà, premièrement, je tiens à vous dire que oui, c'est tout à fait possible de percer dans l'illustration et tout simplement de devenir illustratrice ou illustrateur sans diplôme. Aujourd'hui, je pense que les directeurs artistiques, votre diplôme ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est vos capacités, votre capacité à répondre à un brief, votre talent, votre créativité. Vraiment, n'ayez aucun doute là-dessus. Autant il y a des métiers comme, je sais pas moi, la médecine, la chirurgie, etc. où là, franchement, clairement... Évidemment, il faut passer par la case école, quoi qu'il arrive, mais les métiers de la création, les métiers de la créativité, l'illustration, le graphisme, etc., c'est des métiers où on peut tout à fait être autodidacte. Alors, je vous dis pas que ça va être facile, évidemment, il y aura des choses à apprendre, il y aura des choses à découvrir par vous-même, mais c'est tout à fait possible et c'est pas écrit sur votre front que vous avez pas fait d'école, donc surtout, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues à cause de ça. Alors, pour un petit peu approfondir ce sujet, aujourd'hui, j'avais envie un peu de revenir sur mon parcours à l'école et ce que vraiment ça m'avait apporté et comment vous pouvez, si vous n'avez pas fait d'école et que vous n'avez pas de temps à perdre ni d'argent à perdre avec ça, comment est-ce que vous allez pouvoir, entre guillemets, rattraper ce retard sans perdre trop de temps? Alors la première chose que l'école m'a apportée, c'est une communauté. C'est-à-dire que à la base, quand on dessine et qu'on n'a pas de personne autour de nous qui dessine, on se sent un petit peu seul. Et en plus, bah généralement les gens autour de vous qui n'y connaissent rien vous trouvent que vous avez un talent exceptionnel, que vous dessinez super bien, que forcément vous allez devenir une star parce que vous dessinez hyper bien. Donc ça c'est hyper flatteur, mais c'est pas du tout réaliste. Alors du coup, ce que vous donne l'école, c'est vrai que ça vous permet d'être d'un coup plongé au milieu de plein de gens comme vous, avec des niveaux différents. Ça peut être déstabilisant. Moi personnellement, ça m'a beaucoup déstabilisé. Ça dépend des personnalités, mais ça peut aussi vous créer une espèce d'émulation qui donne envie de se surpasser et de progresser plus rapidement. En revanche, c'est vrai que dans les écoles, des fois il y a des gens bienveillants, et puis des fois il y a des gens aussi qui peuvent être un petit peu dans cette espèce de concurrence malsaine. Et moi, personnellement, c'est vrai que autant ça m'a permis de progresser énormément en peu de temps, après coup, ça m'a complètement démoralisée. Je me suis dit, j'aurai jamais ma place sur le marché, quoi. J'ai pas de niveau. Donc, j'ai complètement arrêté de dessiner pendant 3 ans à cause de ça. Donc, c'est vrai que l'école fournit cette espèce de communauté, mais elle est pas toujours bienveillante. Voilà, ça dépend sur qui vous tombez, ça dépend l'ambiance de votre classe, de votre école, etc. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, à défaut d'être dans une classe, d'être dans une grande ville, etc., on peut tout à fait se recréer une communauté sur Internet. Alors, bien sûr, c'est virtuel, c'est pas exactement la même chose, mais si vous habitez dans une grande ville ou à proximité d'une grande ville, rien ne vous empêche d'après créer des événements où vous pouvez vous rencontrer, échanger, etc., ou encore travailler dans des coworking, c'est tout à fait possible. Sauf que là, vous allez pouvoir choisir les personnes que vous avez envie de côtoyer, contrairement à l'école. D'ailleurs, si vous cherchez une communauté d'illustrateurs sur Internet, je vous en ai déjà parlé, mais il y a quelques temps, j'ai créé la communauté d'Élodie sur Facebook. C'est un groupe privé d'illustrateurs, voilà. J'accepte a priori tout le monde. Il suffit juste de répondre à 2-3 questions pour être sûr que vous êtes au bon endroit. Et voilà, on est un peu plus de 1000, là. On a dépassé les 1000 membres il y a quelques jours. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à partager votre travail, à demander des feedbacks, c'est toujours intéressant. Et en plus, il y a vraiment, je pense, tous les niveaux dans ce groupe. Donc voilà, rendez-vous sur la communauté d'Élodie sur Facebook, je vous remettrai le lien dans les notes de cet épisode. La deuxième chose que l'école vous permet d'avoir, c'est un retour sur votre travail, un retour objectif. Alors personnellement, moi, dans mon école à l'ECV, les profs étaient également des professionnels actifs. C'est-à-dire qu'ils étaient profs, mais avant tout, ils étaient graphistes ou illustrateurs, designers graphiques, etc. Donc ils avaient un pied dans le monde du travail, ce qui leur permettait d'avoir un regard assez objectif. Et souvent de faire des remarques assez pointues. Parce que en plus de nous donner des conseils techniques sur le dessin par exemple, les profs nous donnaient aussi des conseils pratiques pour répondre à des commandes clients de façon pro et efficace. Par exemple, en cours d'illustration, on nous apprenait vraiment à répondre à un brief sans être hors sujet.
Alors c'est vrai que les profs étaient là pour quand même redresser la barre, pour ne pas s'éloigner du sujet, du brief, parce que quand on a un client en face de soi qui veut que vous illustriez par exemple un article de magazine, il faut pas partir dans tous les sens, c'est pas une œuvre d'art, c'est vraiment une commande client avec un objectif précis, c'est de faire rentrer le futur lecteur du magazine dans l'article en question. Alors c'est vrai que quand on a dessiné toute sa vie pour soi, sans objectif précis et tout, c'est vrai que c'est pas toujours facile de devoir d'un coup switcher son cerveau et sa créativité, son coup de crayon, pour répondre à une commande client. Voilà, ça demande une aptitude particulière, ça demande de réfléchir différemment, etc. Et c'est vrai que les profs étaient là aussi pour ça.
Alors c'est vrai qu'il n'y a rien de tel qu'un retour objectif sur son travail pour progresser. Mais aujourd'hui, la meilleure façon que vous avez d'obtenir une critique objective de votre travail, c'est de répondre à de vraies commandes clients. Donc aujourd'hui, le mieux, c'est de vous mettre directement dans le bain et de commencer directement à répondre à des commandes, parce qu'il n'y a rien de tel que vos clients pour avoir un retour objectif. Ça va pas être des personnes qui vont vous caresser dans le sens du poil, ça va être des personnes qui vont vouloir un résultat. Et il n'y a rien de mieux pour apprendre que d'avoir un feedback de ses propres clients. Donc voilà, je vous en parlais déjà la semaine dernière, mais c'est pour ça que c'est très important, même si aujourd'hui vous avez un métier, ou même si vous avez un job qui n'a rien à voir avec l'illustration, c'est quand même important de se déclarer dès maintenant, parce que ça va vous permettre, dans votre temps libre, de pouvoir quand même prendre des commandes, et il n'y a rien de tel, encore une fois, pour progresser, que d'avoir un feedback dans des conditions réelles. Et même si c'est que des particuliers au départ, ça reste des clients qui ont un regard, qui ont une demande, qui ont une exigence, et ça va vraiment vous permettre de progresser.
Parce que malgré tout, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que l'école, elle nous enseigne pas à être en conditions réelles. Et encore une fois, il n'y a rien de mieux que les conditions réelles, que la pression des conditions réelles avec un vrai client, avec une vraie deadline. Il n'y a rien de mieux pour progresser et vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Donc, surtout si vous êtes un petit peu comme moi, que vous avez tendance à peaufiner, etc., chercher à toujours fignoler et tout. Donc, si vous êtes de ce genre-là, rien de tel que des conditions réelles avec un vrai client. Et pour ça, il faut que vous vous déclariez dès maintenant. Donc encore une fois, vous retrouverez toutes les informations pour vous déclarer dans le guide ultime pour se lancer dans l'illustration. Je vous mettrai également le lien dans les notes de cet épisode. Alors justement, on en vient à la troisième chose que l'école vous enseigne, ce sont les logiciels. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui peut faire vraiment peur quand on n'a pas du tout l'esprit informatique, etc. Moi, je sais que personnellement, la première fois que j'ai touché à un ordinateur de ma vie, j'avais 20 ans. Voilà, je fais pas partie d'une génération qui est née avec un ordinateur dans les mains et un iPhone dans les mains. Voilà, je suis un petit peu plus vieille que ça. Du coup, c'est vrai que c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Et j'ai commencé à travailler sur les logiciels uniquement à l'école. J'avais un petit peu essayé de m'y mettre avant, mais ça m'intéressait pas. En plus, à l'époque, l'interface des logiciels, elles étaient vraiment old school. C'était vraiment pas comme maintenant. Ça donnait pas envie, quoi. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris à l'école. Mais franchement, aujourd'hui, vous pouvez tout trouver sur Internet. Vous avez des cours pour Photoshop, vous avez des cours pour Illustrator, si vous avez un Illustrator, des cours de Procreate. Vous avez plein de cours sur tout ce que vous voulez, sur toutes les techniques, sur toutes les méthodes que vous voulez, sur tous les logiciels. Donc maintenant, il n'y a vraiment plus d'excuses. Moi, personnellement, je sais que j'ai appris beaucoup de choses à l'école, mais là où j'ai appris le plus, c'est vraiment en conditions réelles, que ce soit durant mon stage de première année où j'ai dû travailler dans une maison de stylisme et apprendre le logiciel Illustrator que j'avais à peine touché jusque-là. Et j'ai énormément progressé. À la fin, j'étais une pro d'Illustrator. Pareil pour à chaque fois que j'ai eu des projets perso, par exemple faire mon e-book en 2017, c'est là où j'ai appris à me servir de InDesign. InDesign, c'est un logiciel pour faire de la mise en page. Par exemple, si vous voulez faire un livre, c'est le logiciel par excellence. J'ai appris donc à me servir d'InDesign et de Lightroom. Lightroom, c'est le logiciel pour améliorer vos photos. Voilà, c'est des choses que j'ai appris bien après l'école, quand je me suis retrouvée dans une situation où j'avais vraiment besoin d'utiliser ces logiciels. Et du coup, j'ai dû me mettre vraiment et trouver des tutos, demander des conseils, etc. Et j'ai appris hyper rapidement. Pourtant, à la base, j'étais vraiment nulle en informatique. J'étais vraiment loin d'être une geek. Mais voilà, quand tu te rends compte que t'as besoin de ces logiciels pour réaliser ton projet et obtenir un résultat vraiment pro, d'un coup, alors que t'avais jamais utilisé ces logiciels de ta vie, tu te retrouves à regarder des tutos sur YouTube, à t'auto-former ou faire des formations pour apprendre à les utiliser. Tout simplement parce que quand on a une idée précise de ce qu'on a envie de faire, d'un coup, c'est plus facile de l'obtenir. Donc il faut vraiment pas que ça vous arrête, il faut vraiment pas que ça vous bloque, même si vous avez l'impression que tout ce qui est technique, informatique et tout ça, ça vous fait peur et que c'est pas pour vous. Ça, c'est une idée reçue que vous avez dans la tête et qui est fausse. Tout le monde peut se mettre à Photoshop, c'est pas si compliqué que ça, vous avez pas besoin de maîtriser le logiciel en entier. Vous avez juste besoin de connaître deux trois petites choses pour scanner votre dessin, pour arranger aussi un petit peu les couleurs, les nettoyer, etc. et le préparer à l'impression. Mais inutile de connaître tout Photoshop du bout des doigts. Franchement, ça sert à rien. Moi, il y a plein de choses que je connais pas dans Photoshop et je m'en sors très bien. Avec le temps, je me suis créé une sorte de petite tambouille et je pense que tout le monde a un petit peu la sienne. Et donc, même s'il y a des bases à apprendre pour pouvoir coloriser et créer des fichiers de qualité, il n'y a pas vraiment de technique académique pour illustrer sur Photoshop. Chacun a la sienne et chacun peut faire des illustrations de qualité sans avoir besoin de connaître toutes les fonctionnalités de Photoshop par cœur. Alors voilà, je viens de faire un petit peu le tour de ce que l'école peut apporter à un illustrateur ou une illustratrice. Mais surtout, le but, c'était de vous prouver que l'école n'est pas indispensable. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues à cause de ça. Je sais que certaines personnes n'oseront jamais se lancer à cause de ça en disant « bah non, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, je peux pas me permettre de quitter mon boulot pour faire une école ». Vraiment, si c'est votre rêve, ne vous laissez jamais convaincre par qui que ce soit que vous pouvez pas vous lancer dans l'illustration. Il y a de la place pour tout le monde, encore une fois. Et il y a surtout de la place pour ceux qui s'en donnent vraiment la peine. Donc, si c'est votre rêve, foncez. Alors maintenant qu'on a vu que l'école c'était pas indispensable, je voudrais maintenant vous parler de deux choses qui, pour moi, mes yeux sont indispensables en revanche pour devenir illustrateur ou illustratrice. Alors la chose dont vous avez besoin vraiment, c'est d'une bonne stratégie. À commencer par trouver un marché qui soit adapté à votre style. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous faire comprendre que vous n'avez pas besoin de maîtriser forcément toute l'anatomie du corps humain pour dessiner des personnages. Vous n'avez pas non plus besoin de savoir tout dessiner à la perfection, tous les angles, etc. En gros, vous n'avez pas besoin d'être un as de l'illustration pour prétendre à être illustrateur ou illustratrice. Et par exemple, moi je sais que j'ai des lacunes dans les pour dessiner des paysages, pour dessiner de l'architecture. Alors j'en dessine quand même un petit peu parce que c'est vrai que c'est bien d'en avoir dans son book. Mais voilà, comme je sais que c'était pas forcément ma tasse de thé, déjà ça m'intéresse moyennement de dessiner des paysages. Et mon truc, ça a toujours été de dessiner des visages, et des portraits, des choses féminines, des fleurs, etc. Donc c'est ce qui m'a poussée un petit peu dans le milieu aussi de la mode et de la beauté, parce que ça correspondait à mon style, ça correspondait à ce que j'aimais dessiner et le genre de dessin pour lequel j'étais le plus douée en fait. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire la même chose, d'essayer de repérer vos points forts et vos points faibles pour essayer de déterminer quel site pourrait être intéressé par votre travail, quel marché, quel genre de projet pourrait correspondre à votre patte, etc. Ensuite, évidemment, c'est important de toujours élever le niveau de son travail, toujours essayer de pousser un petit peu la barre un peu plus haut à chaque fois, ne jamais se reposer sur ses lauriers, c'est très important. Et vous verrez que dans quelques années, en regardant vos vieux dessins, vous en reviendrez pas des progrès que vous avez pu faire en si peu de temps. Parce que vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais si vous avez toujours une espèce d'exigence dans votre dessin, si vous essayez toujours de pousser la barre un petit peu plus haut, vous allez forcément faire des progrès rapidement. Je vous conseille vraiment d'être pragmatique. Et même si vous continuez à progresser régulièrement, peut-être pas vous lancer par exemple dans un projet de BD hyper complexe si clairement vous avez des lacunes en anatomie, encore une fois. Voilà, si votre style est bien cohérent, s'il est fort, s'il est homogène, il y a forcément un marché qui sera adapté à votre style, à votre dessin, à votre patte. Et finalement, l'une des choses dont vous avez le plus besoin pour percer dans l'illustration et que l'école justement ne vous enseigne pas, c'est d'avoir cette stratégie marketing. Donc comme on l'a vu, le premier point de cette stratégie marketing, c'est de déterminer sa cible. Et ensuite, le deuxième point, ça va être de développer une communication et un portfolio adapté à cette cible. Et une chose aussi que l'école n'enseigne pas forcément, c'est de travailler son mental. Alors on n'y pense pas forcément, mais encore une fois, les doutes, tout ça, tout ce qui est dans votre tête et qui vous bouffe la vie, qui vous empêche d'avancer, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler et c'est important de travailler dessus parce que justement ça peut vous bloquer, vous empêcher d'avancer, vous mettre vraiment des bâtons dans les roues. Alors qu'il faut bien se dire que ça reste que des idées et que c'est pas une vérité. Le fait que vous ayez jamais fait d'école ne signifie pas littéralement que vous n'allez pas pouvoir être illustrateur. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes aujourd'hui, je pense à Caro Frommeland qui n'était pas forcément illustratrice à la base, qui l'est devenue. Je pense à Marie des Tribulations de Marie qui fait aujourd'hui des cours en ligne d'aquarelle et autres, alors qu'à la base, elle était... pas du tout dans ce milieu-là non plus, donc on peut très bien devenir illustrateur, trouver son propre chemin, même si on n'a pas fait d'école, et tout ça, ça commence par votre mental, et aussi par s'entourer de personnes bienveillantes qui croient en vous, qui croient en votre projet, qui ont envie de vous encourager, et au contraire, de fuir toutes les personnes qui vont pouvoir être négatives, qui vont pouvoir voir que le noir, qui vont vous décourager, vous dire des phrases du style « Non, mais arrête de rêver, on n'est pas dans d'un dessin animé », ce genre de phrase, ce genre de personnes qui vous disent ça, il faut les fuir, vraiment, ou en tout cas si vous pouvez pas les fuir, si voilà, si c'est quand même vos amis, vos proches, votre famille, vraiment essayez de pas tenir compte de ces avis, essayez surtout de faire en sorte de vous blinder par rapport à ce genre de discours, parce que c'est vraiment très nocif, c'est vraiment très néfaste pour le mental, pour la confiance en soi, etc., et alors que c'est vraiment... Encore une fois, ça ne reste que des idées, c'est pas la vérité. Et au-delà de ça, même les avis des professionnels ne sont pas forcément à prendre pour argent comptant. J'en veux pour preuve, par exemple les CPE, je pense qu'on est nombreux à avoir eu affaire à des CPE qui ne vous ont pas forcément aiguillé dans la bonne direction. Moi, je sais que mon CPE au lycée, voilà, je voulais aller dans une école d'animation, m'a clairement dit « bah non, c'est mort, faut faire autre chose ». Donc j'ai pas écouté. Après, même les illustrateurs qui sont sur le marché, qui travaillent, etc., n'ont pas la science infuse. Enfin voilà, moi je sais qu'on me pose souvent des questions. Est-ce que tu peux me faire un retour sur mon travail? Est-ce que tu penses que je peux y arriver, etc. En fait, clairement, personne n'a la réponse à cette question. Alors moi, pour ma part, je pense que tout le monde a sa place, encore une fois, quel que soit de style. Il y a des illustrations, l'autre jour je suis tombée sur un compte d'illustration avec une niche vraiment particulière, l'illustrateur dessinait des vulves, voilà. Et en fait tout le compte Instagram c'était que ça, c'était des vulves de toute taille, de toute forme, etc. Et en fait ce compte-là, la personne qui gère ce compte crée plein de produits dérivés autour de ça, il y a des milliers d'abonnés, il faudrait que je vous retrouve le nom. Et je me suis dit, mais mince, ça c'est vraiment le cas typique d'un illustrateur qui a trouvé sa niche, mais elle a vraiment une niche vraiment, pour le coup, étroite, et qui en a fait une activité qui génère des revenus. Voilà, donc vraiment, tout le monde a sa place, et personne ne peut vous dire avec certitude que vous n'allez pas pouvoir percer. Donc, encore une fois, n'écoutez que vous, n'écoutez que votre envie de devenir illustrateur ou illustratrice, et personne d'autre, vraiment. Voilà, c'est pour ça que c'est important de travailler son mental pour être imperméable aux réflexions, aux idées négatives que peuvent apporter les uns et les autres, et pour pouvoir avoir la force suffisante pour continuer à avancer sans se soucier du regard des autres. Et voilà, dans cet épisode, je vous ai un petit peu parlé de ce que l'école pouvait apporter à un illustrateur ou à une illustratrice, et je vous ai aussi expliqué comment vous pouvez parer à ces lacunes si vous n'avez pas fait d'école, si vous n'avez pas de diplôme. Et je vous ai aussi expliqué deux choses dont vous avez vraiment besoin, en revanche, pour être illustrateur, pour être à votre compte, pour être un entrepreneur ou une entrepreneuse, tout simplement. C'est d'une bonne stratégie et de travailler votre mental. Deux choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Donc j'espère que cet épisode vous aura convaincu de vous lancer dans l'illustration, même si vous n'avez pas de formation, et vous aura convaincu que vous avez votre place également. Car vous savez, je vous le dis à chaque fois, mais nous ne sommes pas en compétition, il y a de la place pour tout le monde sur le marché, et il y a une place pour toi qui t'attend. Et si c'est pas encore fait, n'oubliez pas surtout de télécharger le guide ultime pour se lancer dans l'illustration. Vous y trouverez plein de conseils pour vous lancer dès maintenant et des conseils pratiques comme les démarches administratives, la partie la moins sexy du métier d'illustrateur. Donc je vous invite à le télécharger dès maintenant à elodie-illustration.net/start-illustration. Je vous mettrai également le lien dans les notes de cet épisode. Et si cet épisode vous a plu, je serais très reconnaissante si vous pouviez me laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Voilà, ça aidera le podcast à bien démarrer. Moi, je serais ravie d'avoir votre retour sur ces premiers épisodes. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Illustration, le podcast.